Bonjour, je suis Céline Kallmann. Bienvenue dans le titre à la une. La colère de la famille de Kenji Girac après les révélations du procureur de la République de Mont-de-Marsan. Le chanteur, lui, est revenu sur sa première version. Il dit avoir simulé un suicide. Kenji Girac avait 2,5 g d'alcool par litre de sang la nuit des faits. Pendant plus d'une heure, ce jeudi 25 avril, le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson, s'exprime. Il revient sur la blessure par balle de Kenji Girac. Une enquête, dit-il, qui n'a pas été facilitée par les proches du chanteur. Nous y reviendrons un peu plus tard. La conférence de presse se déroule donc au siège du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Et personne ne s'imagine un instant tous les détails que va livrer le procureur. Olivier Janson va en effet donner des explications très précises sur la nuit du drame, mais aussi révéler plusieurs aspects de la vie privée du chanteur, jusqu'ici ignorés par le grand public.
Un accident, un tir intempestif, qui est de manière générale extrêmement peu probable s'agissant d'armes de poing de cette nature, en l'occurrence, est jugé impossible. Dans le cas d'espèce, il ne peut pas y avoir de coup de feu sans qu'on ait mis en fonctionnement cette arme et qu'on ait utilisé très clairement les préconisations en la matière.
Quelques minutes après avoir débuté sa conférence de presse, le procureur affirme clairement que l'accident, première explication avancée par le chanteur, est impossible. Et il explique que Kenji Girac a eu beaucoup, beaucoup de chance de s'en sortir, car la blessure aurait pu être fatale.
Vu le trajet qui a été celui de la balle, elle est passée à proximité immédiate du cœur. Il y a une perforation au niveau d'un poumon. La rate également a été touchée, ainsi que le diaphragme. Aucun organe vital, les os, les côtes notamment, n'ont pas été touchés. C'est un trajet miraculeux, puisqu'il ne touche donc aucun organe vital, alors qu'il y en a un certain nombre sur le trajet potentiel de cette balle.
L'arme n'est pas retrouvée immédiatement par les enquêteurs. C'est une personne non identifiée qui indique aux gendarmes où elle se trouve, à quelques dizaines de mètres de la caravane, dans un bosquet et sans chargeur. L'arme est donc identifiée comme un pistolet semi-automatique de modèle 1911, en mauvais état d'entretien, mais avec un fonctionnement parfait. Un coup ne peut pas partir tout seul, selon Olivier Janson. Il faut appuyer sur la détente de l'arme, qui nécessite une autorisation pour être détenue. Elle n'a jamais été utilisée dans d'autres affaires. Le procureur finit par écarter l'intervention d'un tiers. C'est bien Kenji, lui-même, qui s'est blessé, tout seul.
En conclusion, donc, à ce stade de l'enquête, et sauf élément nouveau, un tir qui aurait été réalisé par un tiers est donc écarté. Qu'il s'agisse d'une personne extérieure au camp, d'une agression, ou qu'il s'agisse d'une altercation avec un membre de sa famille, et plus précisément avec sa compagne. Aucun élément de l'enquête ne va en ce sens, et non seulement aucun élément ne va en ce sens, mais ceux qui ont été recueillis excluent cette intervention d'un tiers. Nous avons donc un tir qui a été provoqué volontairement, au final, par Kenji Girac.
Que s'est-il passé dans les heures qui ont précédé cette blessure? Comment le chanteur en est-il arrivé à vouloir, comme il le dit, simuler un suicide? Le procureur Janson va retracer les faits dans le détail et même remonter à la rencontre de Kenji avec sa compagne Soraya. Cette dernière a expliqué aux enquêteurs qu'ils se sont rencontrés en 2014, en Suisse, avant d'entamer une relation à distance jusqu'en 2020, où ils s'installent ensemble. La jeune femme, qui n'est pas issue de la communauté des gens du voyage, adopte alors le mode de vie nomade de Kenji. Aux policiers, elle confie ne pas avoir été très bien intégrée par sa belle famille. Une situation qui s'est légèrement améliorée il y a 3 ans, lors de la naissance de leur fille. Ce dimanche 21 avril, le couple et leur enfant décident de se rendre au salon nautique d'Arcachon. Ils sont accompagnés par un couple d'amis. Le procureur précise que lors du repas du midi, Kenji boit beaucoup.
Il aurait consommé près d'une douzaine de verres, de bière, de ricard, de rosé, de vin rouge, de poire. La réalité, c'est qu'il a beaucoup bu durant l'intégralité de la journée. Le taux d'alcool à 5 heures du matin est estimé à 2,5 grammes par litre de sang.
Une consommation excessive d'alcool dès midi ce jour-là. Et visiblement, ce n'est pas la première fois que Kenji boit trop. Sa compagne s'en émeut auprès des enquêteurs, parlant d'une addiction récente.
Sujet qui a généré de grandes tensions dans le couple. Elle le présente comme étant à la base un simple fêtard, ce que pouvait parfaitement comprendre et ce qui avait pu par ailleurs lui plaire. Et elle décrit Kenji comme étant l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues, pouvant durer jusqu'à 48 heures, période dans lesquelles il faisait, dit-elle, n'importe quoi.
Soraya précise que si cette situation a pu générer des disputes, Kenji n'a jamais été violent, ni vis-à-vis d'elle, ni vis-à-vis de leur fille, mais qu'il a pu casser des objets lorsqu'il se trouvait dans cet état-là. Interrogé sur l'éventuelle consommation de stupéfiants de la part de Kenji, voici ce qu'elle répond aux enquêteurs.
Elle évoque effectivement une consommation régulière de cocaïne à raison d'une à deux fois par semaine.
Kenji, lui, reconnaît lors de son audition avoir consommé de la cocaïne et avoir trop bu. C'était les vacances, j'ai tout lâché. Je n'aurais pas dû boire autant. Ce dimanche donc, après avoir passé la journée à Arcachon, le couple et leur fille rentrent dans le camp. Un camp sur lequel ils se sont installés depuis plusieurs jours. Il se situe sur une aire d'accueil à environ 1 km de Biscarrosse. Là encore, le procureur va détailler le menu.
L'horreur tardif fait qu'ils vont quasiment enchaîner avec un repas du soir, un couscous qui a été organisé par une tante. Et c'est vers 20h qu'un groupe d'une quinzaine de personnes, essentiellement des jeunes, qui n'ont pas été identifiés à ce jour, décident de se rendre au casino de Biscarrosse.
Kenji se joint au groupe et finit par rentrer chez lui en pleine nuit à 2h30. C'est au petit matin, peu avant 5h30, que le SAMU est appelé pour une blessure par arme à feu. Le chanteur est évacué en urgence à l'hôpital. Et lorsque les enquêteurs arrivent sur le camp, voici ce qu'ils découvrent.
Ils vont découvrir à ce moment-là un camp qui est plongé dans le noir. Il n'y a en apparence personne, en tout cas à l'entrée. Et ils vont chercher et sont presque prêts à faire demi-tour parce que, première analyse, pas de traces de pompiers, pas de traces d'intervention. Et c'est au bout du camp qu'ils voient en revanche une quinzaine, vingtaine d'hommes qui les attendent et qui vont à leur rencontre. Et cet accueil qui est fait aux gendarmes va être un petit peu en décalage par rapport à celui qui a été fait quelques minutes auparavant vis-à-vis des pompiers.
Le procureur Olivier Janson insiste sur le fait que le début de l'enquête ne va pas du tout être facilité par les proches de Kenji Girac.
Donc c'est une forme d'omerta qui va marquer le début de cette enquête, puisque concrètement, les gendarmes seront, sans qu'il y ait aucune violence particulière, seront accueillis et invités à repartir aussi vite qu'ils étaient arrivés, avec peu d'explications.
La vérité, c'est que le soir du drame, donc, Kenji a trop bu. Sa femme Soraya lui reproche de faire du bruit et de mettre la musique trop fort pour leur fille, couchée dans la caravane.
Il la réveille de fait à nouveau, tout simplement en lui parlant, ce qui énerve fortement Soraya Miranda, qui lui explique que dans ces conditions, elle a décidé de partir et qu'il va falloir choisir, que ce sera soit elle, soit lui, mais que l'un des deux va devoir partir. Il s'énerve, tape dans un mur, elle va dans la chambre en question et elle indique qu'elle ferme la porte, mais pas complètement, qu'elle laisse la porte légèrement entrouverte avec l'écartement d'une main. Il est donc lui dans le salon, elle avec sa fille dans la chambre.
Soraya entend alors que Kenji ouvre et ferme des placards, quand soudain...
C'est à ce moment-là qu'elle entend un coup de feu. Elle... ouvre précipitamment la porte de la chambre et indique qu'elle le voit à terre, un genou à terre, gémissant, il y a une arme sur le sol.
Kenji est dans le salon de la caravane, seul. Personne d'autre ne se trouvait à ses côtés lorsqu'il s'est blessé.
Nous avons donc un tir qui a été provoqué volontairement, au final, par Kenji Girac.
Le mercredi 24 avril, le chanteur est auditionné durant 2 heures par les enquêteurs. L'artiste affirme ne pas avoir voulu mettre fin à ses jours et que le coup de feu, qui lui a perforé le thorax, est parti involontairement. Sa version est peut-être influencée par le tabou de la notion de suicide au sein de la communauté des gens du voyage. Ce qui est certain, c'est que la vérité désormais appartient seule à Kenji Girac. La justice n'ira pas plus loin. Faute d'infraction pénale, l'enquête devrait très vite être classée sans suite. Bonjour Candice Mahout.
Bonjour Céline.
Chef du service culture de BFM TV, on a donc le fin mot de l'histoire de cette blessure par balle de Kenji Girac qu'il s'est infligé lui-même. Les proches ne comprennent pas, son manager non plus, ils ne comprennent pas pourquoi il y a eu autant de détails divulgués pendant la conférence de presse par le procureur.
Ils sont très en colère. Parce que, en réalité, est-ce qu'il y avait besoin, c'est vrai, c'est leur point de vue et on peut le comprendre, est-ce qu'il y avait besoin, alors que c'est un artiste qui a précisément gardé sa vie privée extrêmement secrète depuis 10 ans, sa femme, on n'a aucune photo d'elle, hein, je le rappelle quand même, elle ne vient à aucun événement public, ni aucun concert exprès pour ne pas être vue, et là, on déballe leur journée précédant le drame, les courses, les tâches ménagères qu'elle, elle peut faire, lui qui fait des courses, les textos qui s'envoient, les dialogues au cœur de la caravane, au cœur de la nuit, ce qu'il dit à sa fille alors qu'il est ivre. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont tellement intimes qu'effectivement, les proches se demandent est-ce qu'on était obligé d'aller jusque-là, en fait.
Parce que forcément aussi, ça ternit son image, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il a un problème avec l'alcool, en tout cas selon le procureur et selon sa femme, qu'il a un problème avec la drogue également, il a consommé de la cocaïne. Ça aussi, forcément, pour son image à Kenji, c'est désastreux.
C'est désastreux, c'est vraiment un château de cartes qui s'effondre. C'est quelque chose qu'ils ont préservé. Alors, on ne dit pas qu'il s'est drogué, qu'il a bu depuis 10 ans de façon inconsidérée. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours préservé son intimité. Ils ont construit comme ça quelque chose de très privé, son management et tout son entourage. Et là, on a tellement de détails qu'effectivement, c'est une image un peu de gendre idéal et d'artiste un peu finalement solaire et lisse. Qui s'effondre.
Un procureur multicasquette, j'espère que la presse People lui enverra des fleurs, c'est ce qu'a tweeté Vianney, qui lui non plus n'aime pas qu'on parle de sa vie privée. Kenji gardait son jardin secret. Comment le chanteur peut s'en remettre finalement?
En en faisant une force. Voilà, soit comme tout un chacun et comme d'autres artistes l'ont fait avant lui, c'est peut-être en écrivant là-dessus, en s'en repentant sans doute, en expliquant que ce n'était sans doute pas la bonne voie à prendre, surtout quand on a un public aussi familial que le sien. Et effectivement, il pourra écrire là-dessus, il pourra peut-être aussi aller faire le tour des écoles, pourquoi pas, pour expliquer, pour faire de la prévention, expliquer que, évidemment, la drogue, au-delà d'être mal, c'est extrêmement triste. triste et que c'est pas une façon de régler ses problèmes, les armes encore moins. Voilà, tout simplement en essayant de faire face au problème et pas de le mettre sous le tapis.
Ses fans, comment est-ce qu'ils réagissent ? Il y en a qui le soutiennent, il y en a qui sont choqués.
Sur les réseaux, il y en a beaucoup qui disent, mais en fait, on m'a menti pendant 10 ans. C'était un Kenji que, en fait, je pensais connaître et qui n'était pas du tout celui-là. Et puis, il y en a d'autres qu'on a pu rencontrer au Printemps de Bourges qui a lieu en ce moment et qui disent, mais nous, on le soutient toujours, peu importe, c'est sa vie privée, c'est sa vie intime, il a droit à des errements, comme tout un chacun. Il va s'en remettre, il va régler le problème et on le soutient toujours. Après, c'est vrai que les parents qui emmenaient leurs enfants voir Kenji se questionnent en ce moment, mais en fonction de sa réaction, ils pourront continuer quand même à le soutenir en fonction de comment il règle le problème.
Et en même temps, il a le droit d'avoir des faiblesses, d'avoir des démons. Peut-être aussi que c'est une mise en lumière qui peut interroger tout un chacun.
Oui, et qui peut presque faire office de prévention, pourquoi pas. Ça peut effectivement, vous le dites très bien, ce sont des errements humains. Un artiste, on sait qu'il a ses hauts, ses bas, il a parfois beaucoup de pression, il a cette image à tenir, de effectivement gendre un peu idéal et de porteur de la communauté comme ça, de cette communauté, de cette culture solaire. Bon, bah, tout peut pas aller bien tout le temps. C'est aussi la preuve que voilà, Kenji est peut-être tout simplement humain.
Merci beaucoup Candice Maout, chef du service culture de BFM TV, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Je vous en prie Céline.
Merci à Perlam Sika et Alexandre Foucault pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter, à le noter sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau titre à la une.